VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au lendemain d'un sommet régional sur la crise au Burundi, c'est le calme dans la capitale Bujumbura, où l'opposition a appelé à un jour de trêve dans les manifestations. Idriss Fall.
Bujumbura a vécu une journée presque normale. L'opposition avait appelé ce lundi à une trêve dans les manifestations au lendemain d'un sommet régional ayant demandé le report des élections. Le gouvernement burundais a accueilli positivement cette demande, d'après son porte-parole Philippe Nzobonariba. Comme les chefs d'État est-africains n'ont pas discuté de la question du troisième mandat, il a jugé que ce débat est clos. De leur côté, les opposants se sont dit très déçus. L'un des leaders de la contestation pacifique, Ninena Hasoué, a affirmé qu'ils vont encore manifester plus fort demain. Le président Pierre Nkurunziza, lui, a retiré vendredi sa carte d'électeur dans sa ville natale de Ngozi, située dans le nord du pays. Au cours d'un meeting, il a remercié la population d'avoir été solidaire pendant la tentative du coup d'État du 13 mai, alors qu'il assistait en Tanzanie à un sommet régional.
Une femme à la tête de la République de Maurice pour la première fois, Amina Garib Fakim, a été désignée ce lundi comme présidente. Elle devient ainsi la première femme à occuper cette fonction honorifique depuis l'indépendance du pays en 1968. Amina Garib Fakim est une scientifique et biologiste de renommée internationale. L'AFP rapporte que l'Assemblée nationale mauricienne se réunira dans 3 jours pour entériner cette décision du gouvernement. L'opposition devrait voter la motion selon le chef de l'opposition parlementaire, Paul Béranger. Le Burkina Faso, où une transition démocratique est amorcée, doit servir d'exemple au Burundi. C'est ce qu'a déclaré le président français François Hollande en recevant son homologue burkinabé Michel Kafando aujourd'hui à Paris. Pour sa part, le président Kafango a salué le soutien de Paris en cette période décisive pour son pays. En Côte d'Ivoire, des experts de la FAO ont été dépêchés à Boaké, où des cas de grippe aviaire ont été détectés dans un élevage de volailles. Eddy Isango.
Le gouvernement ivoirien a confirmé des cas de grippe aviaire dans un élevage traditionnel des volailles à Boaké, dans les centres du pays. Le ministre ivoirien des ressources animales, Kobena Kwasi Adjoumani, dit que ces prélèvements ont été effectués dans une basse-cour du quartier Coco suite à de nombreux décès des volailles constatés les 18 mai dernier. Le ministre a souligné qu'il n'existe qu'un seul foyer isolé et maîtrisé et qu'aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages modernes. La FAO a dépêché une équipe d'experts pour prévenir la propagation du virus H5N1. Des pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et le Nigeria, ont rapporté des cas de grippe aviaire ces derniers mois. En avril, la Côte d'Ivoire avait fermé son marché aux volailles venant du Burkina et le Bénin a interdit toute importation de volailles.
Au Nigeria, au moins 69 personnes sont mortes dans l'incendie d'un camion-citerne dont le chauffeur a perdu le contrôle aux abords d'une gare routière très fréquentée à Onitsha, dans le sud du pays, selon un bilan communiqué par la Croix-Rouge. Ce bilan pourrait être revu à la hausse car de nombreux blessés souffrent de brûlures graves. Les détails avec Salwa Jaafari.
Le camion aurait perdu le contrôle pour foncer droit dans une gare routière, selon le porte-parole de la police locale. Le véhicule a ensuite pris feu. 12 autres bus et motocyclettes auraient subi le même sort. C'est ce qui explique le nombre important de victimes. On ignore toujours la raison pour laquelle le chauffeur a perdu le contrôle. Des médias nigériens ont fait état de 69 morts, mais aucune source officielle n'a confirmé ce bilan. Des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital. Les accidents de la route sont très fréquents au Nigeria à cause du mauvais état des routes et des véhicules, des excès de vitesse et de l'abus de l'alcool au volant.
En Guinée, l'opposition maintient l'annulation du calendrier électoral comme préalable à tout dialogue avec la mouvance présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Fodéoussou Fofana, vice-président de l'UFDG de Sidi Alaine Diallo, et Baïdi Haribo, secrétaire exécutif de l'UFR de Sidi Touré, ont été désignés samedi porteurs de réponse de l'opposition à la lettre du président Alpha Condé. Sans surprise, l'opposition pose comme condition à sa participation au dialogue l'annulation du chronogramme des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dont les responsables de l'opposition demandent aussi le gel des activités. Dialogue demandé par les uns et préalable par les autres. Le sujet est commenté dans les rues et cafés de Conakry.
Moi, mon souhait aurait que le président écoute les opposants, tout ce qui est bon comme solution pour la Guinée, qu'il accepte ça.
L'opposition est obligée de partir à la table de négociation. Il ne doit pas poser de conditions. Il y a eu trop de tracations, il y a eu des morts, des trucs. Pour éviter tout ça là, ils n'ont qu'à laisser les conditions, ils n'ont qu'à aller sur la table de négociation et parler pour sauver les enfants. Il y a eu trop de morts.
Quand on a discuté une première fois et qu'on ne respecte pas ses engagements, une deuxième fois en plus, la troisième fois, je crois que ce serait préférable d'abord d'avoir une garantie avant d'aller à la table du dialogue.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale a de nouveau appelé dimanche à l'aide face à la progression du groupe État islamique. Ce gouvernement craint que le scénario irakien ne se répète. Il a également demandé la levée de l'embargo sur les armes. Fin février, ce gouvernement avait déjà demandé aux Nations Unies de supprimer cet embargo afin de mieux combattre le groupe État islamique. Mais des membres du Conseil de sécurité avaient dit craindre que les armes ne tombent entre de mauvaises mains ou n'alimentent un trafic dans un pays déchiré par les violences entre factions rivales. L'Égypte a annoncé lundi avoir saisi dans le courant du mois de mai plus de 64 millions de paquets de cigarettes de contrebande, dont plus de 2 millions de contrefaçons. Un chargement similaire a également été saisi par la police de Suez dans le nord-est du pays. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi, les autorités ont augmenté drastiquement la taxe sur les cigarettes importées, mais aussi sur celles produites localement. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a comparé lundi la bande de Gaza à un baril de poudre, car la bande de Gaza est en proie à un blocus, une profonde crise économique et des tensions internes. Lors d'une visite dans le territoire palestinien, M. Steinmeier a appelé à la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée en 2014 par sa troisième guerre en 6 ans. Mais il a insisté sur le fait qu'elle n'était possible que si les tirs de roquettes palestiniens sur Israël cessaient.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité américaine à présent, la NSA, l'agence américaine de collecte des données, a été contrainte hier de suspendre son stockage d'informations sur les appels téléphoniques américains. Un programme révélé au grand public par Edward Snowden. Et ce, ils ont dû arrêter faute d'avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation légale de ce programme par le Sénat américain. En effet, les sénateurs n'ont pas réussi à trouver un accord avant minuit hier soir pour éviter l'expiration de la section 215 du Patriot Act, donc cette législation, qui est le fondement juridique de la collecte des données brutes de tous les appels téléphoniques passés sur le sol américain. Quelques mots de sport pour terminer. Yaya Touré reste à Manchester City. Le milieu ivoirien de 32 ans, que la rumeur envoie à l'Inter après une saison délicate, assure qu'il restera à Manchester City l'an prochain, selon ses déclarations à Manchester Evening News. Et enfin, il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Harriet Thompson est devenue dimanche à 92 ans et 65 jours la femme la plus âgée du monde à disputer un marathon. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du marathon de San Diego, ici aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir, Le Monde Aujourd'hui. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.